dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
La première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, il faut arrêter de se faire exploiter la faute.
Des gens ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous.
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, il y a 11 heures, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les deux heures, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir.
Il est 19h02 et vous êtes à l'écoute du Canu Info du lundi 18 décembre 2023 et on commence tout de suite par les titres.
Alors aujourd'hui à l'international, on va commencer par une interview, une fois n'est pas coutume, sur la situation dans les territoires palestiniens en Palestine. Ensuite, on vous fera un petit sujet sur le Royaume-Uni qui a voté une nouvelle loi xénophobe et on terminera à l'international sur la légalisation de l'espionnage des journalistes, tout ça voté au Parlement européen.
Au national, on vous parlera de ce cher Gérald Darmanin, d'un flic condamné, du groupe Casino qui est carrément dans la mouise et de la Poste condamnée pour sa gestion de la sous-traitance.
Et au local, on commencera par un reportage sur la manif logement qui a eu lieu à Lyon et on finira par un interview avec le collectif Jamais sans toi.
Et on commence tout de suite par la citation de la semaine.
Et oui, on avait raté ces deux belles citations fin novembre, mais on a découvert cette semaine que CNews était truffé d'anarchistes de tout poil. Le 27 novembre, le chroniqueur de Face à l'info, Marc Menant, déclarait « Je suis de gauche et anarchiste ». Mais un autre animateur de la chaîne a également affirmé fin novembre « Allez, je vous laisse deviner qui c'est, je cite donc « On me fait passer pour un réac alors que je suis plutôt anard. J'aime la liberté par-dessus tout. Qu'ils viennent à la maison discuter avec mes filles, elles sont super rock'n'roll. »
Je dirais Pascal Pro.
Et oui, c'est bien une citation de l'immense Pascal Pro dont on salue les filles par la même occasion.
Et puis tout de suite, on commence par les brèves, donc avec une première brève sur l'Argentine. Une fois n'est pas coutume, vous le savez, l'extrême droite la plus dure et délirante est arrivée au pouvoir avec l'élection de Javier Milei. Alors forcément, les fachos de tout poil se sont poussés des ailes. Ce week-end, le député d'extrême droite et allié de Milei, José Luis Espert, a menacé de mort sur Twitter plusieurs personnes du PTS, qui est le Parti des Travailleurs pour le Socialisme, un parti trotskiste d'extrême gauche, et du FIU, qui signifie Front de la gauche unie, qui est plutôt de gauche radicale, dont deux députés, un homme et une femme. Alors pour l'une, c'était la prison ou une balle, je cite, et pour l'autre, pour toi aussi, parasite, bon à rien, la prison ou une balle, si tu enfreins la loi. Alors tout ça laisse présager une répression bien féroce, et c'est ce qu'a déjà annoncé Javier Milei, pour les droits de l'homiste, les militants et militantes de gauche et d'extrême gauche. On leur souhaite évidemment bon courage.
Le 5 décembre, lors d'un pot de départ au sein d'une caserne pour fêter la mutation d'un agent d'une compagnie d'intervention parisienne, un policier a reçu un coup de hachette porté à l'abdomen par un de ses collègues. Résultat, 35 points de suture. Et quelle compagnie devait rejoindre le policier ayant eu le gras tranché ? La fameuse CRS-8, l'unité dite d'élite du maintien de l'ordre et des violences urbaines. Reste dorénavant à savoir si le policier a encore les tripes.
Et maintenant, le raté pour le gouvernement de la semaine sur l'abattement fiscal des Airbnb. Donc jeudi 14 décembre dernier, s'est nichée une petite coquille, mais qui vaudrait quand même quelques milliers d'euros pour les propriétaires de locations saisonnières type Airbnb. Donc pour reprendre rapidement, le jeudi 14 décembre, Elisabeth Borne a fait adopter une partie du projet de loi finance à l'aide d'un énième 49.3, le 21e pour être précise. Mais dans ce projet de loi, c'est donc niché une erreur matérielle selon le gouvernement, ou un amendement proposé par la gauche sur donc la niche fiscale concernant Airbnb. Donc lors du passage au Sénat, la gauche avait proposé un amendement pour réduire l'abattement fiscal sur les locations de meublés touristiques, passant de 71%, ce qui est déjà énorme, à 30% dans les zones tendues et 50% dans les zones rurales, ainsi que l'abaissement des recettes à 15 000 euros. Donc cet amendement, il n'a pas été corrigé. Une erreur pour les gouvernements dont on se réjouit évidemment, et alors que le gouvernement assure quand même que l'amendement sera modifié dans un prochain vote budgétaire en 2025. Bref, ou quand l'usage du 49.3 se retourne contre le gouvernement.
Et hôtellerie toujours, hein, on parle prix des logements pendant les Jeux Olympiques, puisque l'adjoint au maire de Paris chargé du tourisme et de la vie nocturne a indiqué la semaine dernière une hausse de 314% des nuitées hôtelières entre juillet 2023 et juillet 2024, soit, tenez-vous bien, un prix moyen de 699 euros la nuit d'hôtel pendant les JO, ça fait rêver. Bref, on n'a pas fini de vous en parler ici, mais la folie des JO est bien en marche.
Et comme chaque semaine, le point sur les grèves. Aujourd'hui, ce sont les contrôleurs aériens qui se sont mis en grève contre la réforme de leurs droits de grève. Cette réforme vise à les obliger à se déclarer individuellement ou non 48 heures à l'avance, comme c'est, je vous rappelle, le cas déjà à la RATP ou à la SNCF. Grève efficace puisque les aéroports de Tarbes, de Pau et aussi de Saint-Yon sont privés de services de la circulation aérienne et 30% des vols ont été annulés lundi aujourd'hui à Paris-Orly. Grève également à la RATP sur la ligne B. Ce lundi, en Ile-de-France, un train sur deux roulait sur le RER B. Trois syndicats ont lancé le 1er décembre un appel à la grève pour ce lundi donc, dénonçant une injustice flagrante d'une procédure disciplinaire contre un conducteur de RER. Vive la solidarité. Mouvement de grève également sur l'antenne de France 24. 330 salariés de la chaîne ont voté jeudi une motion de défiance à l'égard de leur direction, assurée par Vanessa Bourgraff, a fait savoir la CGT qui est à l'origine du mouvement et qui conteste aussi une réforme des plannings. Il et elle réclament aussi une amélioration des conditions de travail. Enfin, des aides-soignantes à l'hôpital de Laval dénoncent leurs conditions de travail. Une grande partie du service de médecine polyvalente est en grève illimitée depuis aujourd'hui. Le personnel gréviste réclame des effectifs supplémentaires, notamment pour prendre en charge les patients et les patientes le week-end.
Et après ces bien belles brèves et grèves, on passe tout de suite à la rubrique
internationale.
Et on commence cette rubrique par un point sur la situation en Palestine, situation qui est toujours catastrophique, hein, les exactions du régime israélien de moins en moins dissimulables. Vendredi dernier, le 15 décembre, donc Tsahal a par exemple abattu trois otages israéliens qui avaient réussi à s'échapper. Les trois hommes étaient torse nus et donc démunis d'armes ou de ceintures explosives, hein, de toute évidence. L'un d'entre eux portait un bâton avec un drapeau blanc, mais les soldats israéliens ont quand même tiré. L'armée israélienne a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur. Alors Israël admet en réalité qu'elle tue sans distinction tout ce qui bouge à Gaza. Pour nous parler un peu plus en détail de la situation depuis le cessez-le-feu, on a donc décidé d'inviter une fois de plus le collectif Palestine pour nous faire un point sur la situation. Merci beaucoup d'avoir répondu présente. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un point sur ce qui s'est passé depuis la dernière fois que vous êtes venu sur le plateau et donc depuis le cessez-le-feu, où est-ce qu'on en est de l'offensive militaire et de la situation humanitaire?
Oui, merci. Alors, bonjour. Donc la situation est toujours absolument terrible, effectivement. L'offensive militaire continue sans relâche. On a des bombardements incessants à Gaza et aussi en Cisjordanie. On en parlera après. La situation est terrible. Les maisons, les habitations, tous les bâtiments sont en ruine. Il faut savoir que Israël tire entre 400 et 500 fois par jour sur la bande de Gaza. Donc c'est absolument faramineux. Les Gazaouis ne savent pas le matin s'ils vont pouvoir terminer la journée. Il n'y a absolument aucun espace de protection à Gaza. Donc la situation actuellement, c'est qu'on voit des journalistes qui témoignent en direct qu'ils ont perdu dans la journée leurs enfants, leurs familles qui ont été bombardés dans la journée. Après, il faut noter que l'armée ne connaît pas bien le terrain et qu'ils se font attaquer régulièrement par les combattants du Hamas. Il y a de nombreux soldats de l'armée qui sont morts. En fait, ils savent pas bien comment faire et comment atteindre le Hamas. Donc, leur stratégie, c'est de bombarder les écoles, les hôpitaux, mettre de l'eau dans les tunnels. Et donc, on peut supposer que ce n'est pas des stratégies très probantes. Et donc, ce sont malheureusement la population civile et les femmes, les enfants qui sont les premières cibles de ces cibles-là.
Est-ce qu'on a des chiffres un peu justement sur le bilan humain aujourd'hui, au 18 décembre 2023
Oui, alors ça doit dater d'hier. Il y a à 71 jours du génocide israélien à Gaza, 1680 massacres, 18 800 tués, avec certainement beaucoup plus de monde sous les décombres et avec les tonnes de bombes utilisées, dont 8 000 enfants, 6 200 femmes, plus de 300 personnels médicaux, 32 protections civiles, 91 journalistes, j'en parlais, 7 500 disparus, dont 70% d'enfants et de femmes, 51 000 blessés. Donc c'est absolument terrible, avec des situations d'humiliation quotidienne. On a pu voir des images avec des Palestiniens qui étaient déshabillés, qui n'avaient que leurs sous-vêtements. Donc ça, c'est l'humiliation quotidienne, hein, parce que les Israéliens sont dans des procédés très lâches, à tuer à bout portant des Palestiniens, à les humilier régulièrement.
Oui, on a vu avec l'histoire de ces trois otages abattus froidement par le Tsahal que peu importe si on constitue un danger réel.
Oui, même et pas ça correspond aussi à leur formation, parce qu'il y a le protocole Hannibal qui est donc dans l'armée israélienne, la règle de tuer les civils plutôt que d'avoir des otages. Parce que les otages, du coup, il faut les échanger contre des prisonniers. Donc c'est tout simplement leur formation et leur règle de tuer la population, même israélienne.
Oui, donc quand ils tuent leurs propres concitoyens, c'est simplement une erreur, puisque c'est une pratique habituelle et normale pour le Tsahal.
Voilà. Donc pour des infos sur les derniers jours... Il y a un missile qui a touché la maternité de l'hôpital Moubarak du complexe Nasser à Khan Younis, c'est au sud de la bande de Gaza. Les forces d'occupation ont pris d'assaut l'hôpital Al-Oda à Jabalia, au nord de la bande de Gaza, après l'avoir assiégé et bombardé pendant des jours. Les forces d'occupation ont arrêté le personnel de l'hôpital Al-Oda, dirigé par son directeur, Ahmed Mouana. Les forces d'occupation ont libéré le personnel de l'hôpital après 4 heures d'interrogatoire dans des conditions inhumaines. Il y a eu 90 martyrs lors des raids israéliens sur Jabalia, au nord de la bande de Gaza. Et ça, c'est un exemple parmi de nombreux. Il y a l'hôpital également Kamal Adwan, au nord de la bande de Gaza, qui a été complètement détruit, qui est hors service. Il y a énormément de morts et des maladies infectieuses aussi qui circulent. Et des bactéries. Et le terminal de Rafah, qui est au sud de la bande de Gaza, appelé la bouée de sauvetage, est fermé. C'est le seul passage vers l'Égypte, point de passage, passage humanitaire, qui est fermé ces jours-ci. Donc c'est absolument terrible.
C'est terrifiant, ouais. On parle beaucoup de Gaza, mais on a vu ces derniers jours des raids, notamment sur Jenin en Cisjordanie. La situation est dramatique, hein, dans les autres colonies aussi. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ?
Alors effectivement, Cisjordanie, c'est terrible. Il y a les colons, donc ce qu'on appelle les civils israéliens sont quand même des colons et ils sont armés. Plus de la moitié de la population est armée et tire sur des... On voit des images où ils tirent sur les Palestiniens en pleine rue, donc c'est à peine dissimulé, complètement décomplexé aujourd'hui, cautionné par la politique internationale. La libération des otages a fait grand bruit. Face à ça, la libération des prisonniers dont on a à peine parlé, qui sont des Palestiniens qui restent des années emprisonnés sans...
souvent arrêtés très jeunes.
Très jeunes, il y a des jeunes. Enfants dans des conditions terribles et sans procès. Ils attendent pendant des années. Voilà, donc depuis, il y a eu près du double de nombre de prisonniers qui ont été... réemprisonnés, et enfermé. C'est sûrement beaucoup plus depuis. En Cisjordanie et à Jérusalem, leur nombre il passe à 4400 il y a deux jours. Voilà, pour donner les chiffres actuels. Je voulais dire un mot sur le fait qu'il y avait quand même une plainte pour génocide actuellement. Hein. On en est là. Donc la plainte est au CPI. À la Cour pénale internationale. Voilà, c'est ça, parce que la situation de plus de 80% de la population qui est forcée de se déplacer, de priver les gens de nourriture et d'eau, d'avoir déjà tué plus d'1% de la population, de bombarder les hôpitaux, les écoles, sont tout à fait les critères pour qualifier... une situation de génocide, et ça sera la CPI qui le déterminera ou pas. Pour la situation à Jénine, il y a eu également les dirigeants du théâtre Freedom qui ont été arrêtés ces jours-ci, avec Ahmed Tobazi, qu'on a vu dans son seul en scène And Here I Am, qui a joué ici à Lyon, au Théâtre des Asphodèles, et de nombreuses fois en France, et les deux autres directeurs artistiques, Mustapha Cheta et Jamal Abou Joas, dans des conditions terribles, et leur domicile a été saccagé, ainsi que les locaux du Théâtre Freedom.
Alors, on a vu là un peu sur les réseaux sociaux de plus en plus de franco-israéliens enrôlés donc, dans l'armée de Tsahal qui se filment en commettant des exactions. On n'entend pas trop parler le gouvernement français sur ce qu'on fera d'eux à leur retour, hein, qui pourtant d'habitude aime bien s'exprimer sur ces questions-là. Qu'est-ce que ça dit de la politique française concernant le génocide en cours et vis-à-vis d'Israël ?
Alors effectivement, aujourd'hui, il y a plus de 4000 Français engagés dans l'armée israélienne, donc des binationaux qui sont appelés les réservistes. Il y a une implication directe de la France dans ce génocide, avec la vente des armes, notamment l'agence Thalès.
Toujours dans les bons coups,
l'agence Thalès. Voilà, il y a des agences dans la région. Depuis le début de l'attaque du 7 octobre, pas du conflit, hein, parce que ça remonte beaucoup plus loin, bien sûr, le discours en France est pro-israélien, la propagande est extrêmement forte. On voit que les informations sont très filtrées, notamment... sur ce qui s'est passé le 7 octobre, ce protocole Hannibal, on sait désormais qu'il y a donc l'armée israélienne qui a tué des civils, et donc la France a pris parti en condamnant tout soutien à la Palestine pour antisémitisme. Darmanin voulait interdire les manifestations de soutien dès le départ. On peut noter la manifestation du 12 novembre contre l'antisémitisme qui s'est déroulé aux côtés de tous les racistes qui réhabilitent Pétain ou Maurras et qui laissent crever en mer les migrants qui sont tout à fait au cœur de l'antisémitisme en France, les partis d'extrême droite. Et donc la politique qui soutient... le racisme en France et l'islamophobie, notamment, qui monte. Là, je vais dire deux mots en tant que membre de l'UJFP. Pardon, l'UJFP, Union Juive Française pour la Paix. Face à ceux qui feignent de ne pas savoir que la guerre au Proche-Orient est une guerre coloniale et n'est ni raciale, ni communautaire, ni religieuse, on doit rappeler que la haine du juif n'est pas seulement immorale, elle aide objectivement celles et ceux qui massacrent le peuple palestinien. La peur est un moteur pour l'apartheid israélien et pour l'adhésion de beaucoup de juifs et juives à la politique meurtrière d'Israël. Et surtout, je vais vous donner rendez-vous.
Oui, voilà, j'allais te demander les prochains rendez-vous pour soutenir le peuple palestinien qui subit un génocide terrible.
Effectivement, donc avec le collectif 69 de soutien à la Palestine, on appelle à se retrouver samedi prochain à 15h à la place Bellecour. Et on organise régulièrement des actions comme BDS, de boycott aux entreprises qui soutiennent Israël, comme Carrefour, McDo.
Carrefour qui nourrit les soldats en ce moment sur le front.
Voilà, au petit call center qui vient donner des bonnes lunettes à l'armée pour qu'ils visent juste. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour ce point sur la situation. On invitera sans aucun doute le collectif très prochainement. On espère que ce sera pour nous annoncer des bonnes nouvelles. Mais on passe tout de suite à la suite de notre rubrique internationale avec un petit détour du côté du Royaume-Uni.
Oui, c'est un projet de loi qui xénophobe, qui avait fait parler de lui par son absurdité et sa violence, qui a été voté mardi dernier au Royaume-Uni par la Chambre des communes britanniques. Donc la loi portée par le Premier ministre conservateur Rishi Sunak consiste tout bonnement à expulser les personnes en situation irrégulière présentes sur le territoire britannique vers le Rwanda. Donc en fait, c'est depuis le printemps 2022 que cette proposition de loi avait été annoncée, mais elle n'avait pas pu aboutir car elle avait été retoquée par la Cour suprême pour des raisons évidentes. Mais donc pour ce nouveau texte, Rishi Sunak a tout fait pour que ça aboutisse, notamment à l'aide d'un traité avec le Rwanda et aussi la modification du texte, notamment en modifiant en changeant le Rwanda en pays sûr. Donc c'est vrai que la simple modification d'un texte change le contexte du pays. La modification également du renvoi des personnes irrégulières, vers leur pays d'origine et aussi la réduction de certains droits pour empêcher les recours à la justice. Donc réduction totale des droits pour renvoyer des personnes dans un pays totalement inconnu sous prétexte, je cite, qu'il y aurait plus d'opportunités dans ce pays. Donc un petit espoir réside encore. Le texte doit être discuté en janvier par la Chambre des Lords et pourrait être modifié. Et là, petit goût de déjà vu, l'aile droite du Parti conservateur ainsi que les eurosceptiques du Parlement se disent opposés à ce texte car, attention, il serait jugé trop modéré. Le signe aussi d'une majorité divisée mais toujours autant xénophobe et raciste.
Et pour terminer à l'international, donc un point sur ce qui a été voté au Parlement européen concernant les journalistes.
Oui, c'est un texte qui est sur la table depuis plus de 2 ans, le European Media Freedom Act. Il est en discussion au Parlement européen depuis septembre 2022. Alors, censé protéger les journalistes, ce texte et les débats qui l'ont entouré sont à rebours de la liberté de la presse censée être défendue par la France notamment. 6 pays, parmi lesquels l'Italie, la Finlande, la Grèce, Chypre, Malte et la Suède, avec à leur tête évidemment la France. Donc ces 6 pays s'acharnent depuis près de 15 mois à torpiller complètement cette loi. Ils veulent y ajouter la possibilité de surveiller des journalistes au nom de la sécurité nationale. Alors les tensions au Parlement européen, elles se concentrent sur l'article 4 qui, dans sa version initiale, interdit l'utilisation de logiciels espions contre les journalistes et les médias, à l'exception d'enquêtes sur des formes très graves de criminalité, donc de terrorisme, viol, meurtre, etc. Mais ça, pour la France, c'est niet. Le gouvernement Borne écrivait le 21 octobre 2022 son refus. Je cite « que les enjeux en matière de sécurité nationale ne soient traités dans le cadre d'une dérogation ». Donc pour résumer, l'exception pour la France, c'est la sécurité nationale. Après des mois d'intenses tractations, la France a réussi à convaincre les autres États de cette impérieuse nécessité de fouler au pied la protection des sources, puisque le 21 juin, une nouvelle version de la loi était discutée par les parlementaires européens. Cette version élargissait les outils de surveillance pour les renseignements. Donc des logiciels espions pourront ainsi être déployés dans le cas de 22 délits comme le sabotage, l'atteinte à la propriété privée ou encore la contrefaçon. On note aussi dans cette version l'ajout d'une phrase qui élargit encore plus les possibilités de renseignement en cas d'atteinte à la sécurité nationale, à la discrétion donc des États. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée en juin, puisque s'en sont suivies encore des négociations au sein du Parlement. L'épilogue de ces mois de lobbying liberticide de la France était ce vendredi avec un nouvel accord. en réalité plutôt un camouflet pour la France, puisque ce dernier texte ne fait aucune référence à la sécurité nationale. Néanmoins, l'utilisation de logiciels espions reste possible dans certains cas de crimes graves, mais devra faire l'objet d'une autorisation et d'un contrôle judiciaire. La France donc toujours déterre pour museler la presse. Je rappelle que selon Reporters sans frontières, la France est en 24e position en termes de liberté de la presse. Alors, elle a gagné 2 places depuis 2022, mais c'est simplement parce que la situation s'est dégradée dans les 180 autres pays étudiés. Encore un bien beau résultat pour le pays de la liberté.
Et allez, on fait une pause musicale bien méritée avec Made in France de Made in.
Made in France, pas Made in Taiwan. Ok. J'suis pas made in France quand j'vois les étudiants devant le Crous faire la queue pour obtenir la moitié d'un casse-croûte. Encore un texte qu'on vilipende, ça faisait longtemps. Normal que j'prenne les premiers coups si j'suis toujours en avance sur mon temps. J'suis pas made in Algérie, des généraux. Un seul héros, c'est le peuple et y'aura jamais à changer les rôles. J'me sens algérien comme ceux qui ne l'étaient pas à la base. Jacques Vergès, Franz Fanon et la grand-mère d'Edith Piaf. J'suis pas made in Dubaï, là-bas y'a trop de chichi. Y'a que des connards d'exilés fiscaux riches du dropshipping. J'suis plus vieux que leur archipel sorti hier de sous terre, avec leur super tower que des indiens soudèrent. Ils ont démoli immense des parcs de jeux pour tout âge, les bâtissants salissant de place d'Ibn Battuta, comme une boutique de CBD qu'on appelle Bob Marley. Les rues les plus violentes s'appellent Gandhi à ce qu'il paraît. J'suis pas made in Qatar, nique le foot et le soft power. La World Cup 2022 est pleine de samposeurs, de Népalais, de Sri Lankais et Philippins, mille vies venues d'Inde par conteneur comme parquet de filet d'Inde. J'suis pas made in Russia qui censure tous les podcasts. Je veux pas d'un président torché à la mauvaise vodka, qui empoisonne ses opposants avec des neurotoxiques, croire refaire l'image de son peuple à la chirurgie plastique. Je suis pas made in USA, made in America. Ils sont jamais retournés sur la lune, mais deux fois en Irak. Y'a eu du chemin de fait depuis que les noirs luttèrent, mais les rues les plus violentes sont celles qui portent le nom Martin Luther. À Thanksgiving, ils se souviennent des indiens en génocide dans toutes les dindes, et passent au Black Friday le lendemain. Pas de calumet, allume les noirs avec des armes de taille humaine. Pas besoin de détailler, c'est la mentale états-unienne. J'suis pas made in Africa et toute sa corruption. Vouloir être légal de l'Europe, c'est clairement manquer d'ambition. Où la misère est beaucoup mieux partagée que les richesses, où y'a peut-être beaucoup moins de diplômés que de fichesses. J'suis pas made in Saoudia, ni de la Mecque, ni de Riyad, qui font payer les vieillards, plus de 3K le pèlerinage. Pas made in El Madina, si mon père m'a donné ce blaze, c'est pour honorer son sab, pas pour surfer sur l'histoire. Produit des pays pauvres, je suis un palmier du pays de Caux. De la France périphérique comme Adama, oublié comme Airbnb à Damas. Politiquement je suis médiéniste de gauche, entre un démon NOS et Pierre Desproges. Chaque fois que je rappe, y'a v'là les doses. Chaque fois que je prends position, je perds des proches. J'ai comme une envie de prendre les valeurs actuelles. Je sais qu'il y a plus de connards que de prix Nobel. Vous serez prêts à vendre du papier à des arbres. Même les poissons ont la honte d'être emballés dans vos pages. Ils sont en train de faire de nous leur pire ennemi. Quand ils s'adressent à l'indou comme Pépita dans Pyramide, prends des coups de matraque dans le pif comme des tests antigéniques. Si tu louches, c'est qu'un islamiste, au mieux un indigéniste. Pendant qu'ils vendent des rafales au régime des Émirats, ou bien l'essence de Total pour les patrons de la jeune Birman. Pendant que Pépé peut plus payer, sont plus mal médicalisés. Si j'étais personnel soignant, je me serais déjà radicalisé. Ils reculent l'âge de la retraite, mais avancent l'âge de la mort. Disent que c'est nous qu'appelons en meurtre, envie de gerber jusqu'à l'aurore. Est-ce que l'État nous protège ou l'État se protège de nous? Je sais plus si la France ça s'épouse. Si on s'en passe ou on s'étouffe. Je sais plus si je dois militer ou au contraire me limiter. Est-ce que mes repas de mille sont des réunions en non mixité? Pour me sentir intégré, j'ai rien trouvé d'autre qu'un défaut. Quand le français perd sa beauté, alors il défigure les autres.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, vous écoutez le Canu Info du lundi 18 décembre. On passe tout de suite à notre rubrique.
National.
Et on parle de notre très cher Darmanin et sa loi controversée.
Et sa loi controversée, d'ailleurs, si vous nous écoutez, c'est très mal, c'est que vous n'êtes pas à la manif, ou alors vous nous écoutez pendant la manif, et ça c'est très bien, sinon c'est que vous nous écoutez en podcast, et donc on vous félicite.
C'est encore mieux.
C'est encore mieux. En tout cas, évidemment, on vous en a beaucoup parlé, c'est la loi Darmanin, la loi raciste et xénophobe du ministre de l'Intérieur et compagnie. Elle est loin d'être morte, malheureusement. Elle est en passe d'être durcie, en ce moment même en CMP, la fameuse commission mixte paritaire, même si quasiment tout a déjà été décidé entre le gouvernement et LR. Là, on a 7 députés et 7 sénateurs qui sont en train de discuter de choses qui ont déjà été validées par l'exécutif. Alors, LR va lâcher sur certaines choses, mais le gouvernement lui a fait de bien belles promesses. Alors, quelles sont-elles ? Dans une lettre de Elisabeth Borne à Gérard Larcher, pas moins que lui, elle s'engage à réformer l'aide médicale d'État, donc en début d'année 2024. Il faudra donc s'attendre à un durcissement de l'accès à l'AME, mais donc d'ici 2 à 3 mois, et pour ça, ça suffit à LR de lâcher un certain nombre de points. Dans une lettre à Éric Ciotti, puisqu'ils aiment quand même beaucoup s'envoyer des lettres, visiblement, Darmanin s'engage à accélérer au maximum la création de pas moins de 11 nouveaux centres de rétention administrative pour enfermer plus et expulser plus, bien sûr. Il l'a d'ailleurs réaffirmé dans sa lettre à Éric Ciotti, je cite, « C'est d'abord une grande loi de fermeté contre l'immigration irrégulière. » On le savait, mais au moins comme ça, c'est clair. Alors ça, c'est tout ce qui est en dehors de la loi, puisque c'est ce qui va se passer en dehors de ce qui va repasser très probablement à l'Assemblée nationale, peut-être dès demain. Et puis, il y a ce qu'il compte rajouter, céder aux Républicains dans la loi, comme par exemple le grand retour de la déchéance de nationalité pour les binationaux auteurs de crimes contre les forces de l'ordre. D'ailleurs, on fait ici un petit coucou à François Hollande, qui avait quand même tenté de le faire passer en 2016.
Et qui nous écoute, qui plus est.
Bah, bien sûr,
on sait de sources sûres qu'il nous écoute.
C'est sûr, sur Internet. Et l'autre mesure, le fait pour les jeunes nés en France, de parents étrangers, de manifester, il faudra dorénavant qu'ils manifestent leur volonté d'acquérir la nationalité pour l'obtenir, alors que c'est aujourd'hui automatique. Et puis, on n'en a pas encore les détails exacts, mais a priori, Renaissance va lâcher du lest au LR sur la question de la durée de résidence en France pour les étrangers et étrangères en situation régulière, ce coup-ci, en ce qui concerne les APL, donc les aides au logement, et les allocations familiales. Aujourd'hui, il faut être résident en France depuis 6 mois. LR voulait, dans la loi programmée par le Sénat, le durcir à 5 ans. Et ce sera probablement donc entre un délai de 6 mois à 5 ans. Et ça, peut-être, c'est la seule chose sur laquelle la commission mixte paritaire va effectivement se décider. Bon, et tu veux dire quelque chose ? Non. Et bon, et parce qu'il fallait bien faire semblant d'aller un peu dans l'autre sens, il devrait y avoir des facilitations de régularisation pour les travailleurs et travailleuses sans papier des métiers en tension, notamment en donnant la possibilité aux travailleurs et travailleuses sans papier de faire la demande en préfecture de régularisation par le travail sans l'aval de l'employeur. Bref, vous l'avez compris, on part sur un durcissement et un passage quasiment assuré à l'Assemblée nationale avec l'Alliance des Républicains, une loi raciste et xénophobe de plus qu'il va falloir aller arracher dans la rue. Et plus que jamais, nous, ce qu'on dit, c'est solidarité avec tous les sans-papiers.
Et toujours national, on passe à la condamnation d'un policier, une fois n'est pas coutume.
Oui, absolument. Jean-Michel H., un ancien policier et ex-responsable du syndicat Alliance, était jugé au tribunal correctionnel de Paris vendredi. Il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour recel d'abus de biens sociaux, faux et usage, ainsi que blanchiment aggravé. La justice a une nouvelle fois fait preuve d'un jugement pourtant bien clément avec les flics, au point que l'avocat du policier s'est dit satisfait de la décision. Ce même policier avait déjà été condamné pour conduite en état d'ivresse en 2022 et il avait à l'époque reçu publiquement le soutien du secrétaire général d'Alliance Police Nationale. En revanche, pas encore de condamnation pour Luc L. Ce commandant de la CRS 4 fait l'objet d'une enquête pour détournement de biens publics, recel et violation du secret professionnel. Luc L. est notamment accusé d'avoir noté des jours de présence alors qu'il était absent, touchant ses primes pendant qu'il jouait au golf ou d'avoir utilisé du matériel informatique administratif pour sa famille. Tant qu'à faire, il a même facturé des heures sup et des frais de déplacement qu'il n'a jamais effectués. À cela s'ajoute aussi la tentative de suicide d'une employée handicapée pour cause d'ambiance délétère dans le service et pour se couvrir, le commandant a falsifié le rapport en l'antidatant et en minimisant sa responsabilité. Mais encore pire, ce commandant des CRS n'est pas poursuivi pour ses messages graveleux, racistes et antisémites sur le groupe WhatsApp de la caserne. La justice condamne donc les policiers seulement pour leurs agissements violents et illégaux quand ils ne remettent pas en cause l'institution policière. Pendant ce temps-là, la police continue de tuer puisque mardi 12 décembre à Paris, un policier de la brigade de répression de l'action violente motorisée, la Brave M, qui est une escouade ultra-violente de policiers se déplaçant en binôme sur des motos, eh bien, un policier de cette brigade a tué un passant de 84 ans en le percutant. Et samedi 16 décembre à Marseille, c'était un homme de 22 ans qui perdait la vie lors d'une course-poursuite avec la police.
Et on poursuit avec l'actualité nationale du côté de l'actu sociale.
Oui, et donc le 7 décembre, le groupe Casino annonçait la revente des magasins prétextant l'endettement. L'intersyndicale a réagi par la mobilisation pour préserver l'avenir des salariés. Donc en effet, c'est 18 000 salariés du groupe qui sont concernés. Et d'ailleurs, qui dit reprise dit perte d'accord pour les salariés, soit la casse des maigres avantages pour des salariés déjà précaires. Donc, à la suite d'une décision du tribunal le 11 décembre, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde accélérée, le groupe obtient un délai de 2 mois pour décider des modalités de reprise, mais annonce néanmoins une vente massive. Des semaines décisives donc pour les salariés, suivies de mobilisations, une manifestation le 5 décembre à Saint-Étienne et à Paris, ainsi qu'une autre le dimanche dernier, donc le 17 décembre, à Saint-Étienne. Donc, en effet, Saint-Étienne, c'est la ville où siège le groupe et l'histoire de cette ville est souvent associée à Casino. Donc en effet, le groupe naît à Saint-Étienne en 1898 sous l'égide de Geoffroy Guichard, nom du célèbre stade de football stéphanois. Et le groupe a aussi longtemps été associé donc à l'équipe de foot, partageant donc la couleur verte. Pour cette raison, joli coup de com'. Mais au-delà de ça, c'est aussi donc des emplois pour les Stéphanois et les Stéphanoises qui, et la perte notamment de ces emplois qui explique une forte mobilisation dans la métropole ce dimanche où plus de 2000 personnes se sont mobilisées pour défendre les 4000 salariés présents et présentes dans le département. Un souvenir amer aussi pour les habitants et habitantes qui ont déjà vu à plusieurs reprises le démantèlement de sociétés et la perte de milliers d'emplois. Donc aujourd'hui, on apprend que Auchan et Intermarché se maintiennent dans la course au rachat, mais avec des informations au goutte à goutte et partielles. Demain, l'intersyndicale devrait être reçue pour se voir informer des offres potentielles, mais seulement informer bien sûr, avec une confirmation des orientations le 11 janvier. En tout cas, qu'on ne s'y trompe pas, la revente n'est qu'un prétexte à profit pour le groupe et les racheteurs, laissant donc sur le côté les emplois et les salariés. L'intersyndicale annonce quant à elle d'ores et déjà une autre mobilisation nationale dans les entrepôts ce vendredi qui vient.
Et on passe tout de suite à une actu sur la Poste, enfin condamnée pour ses pratiques.
Ouais, le 5 décembre dernier, c'est le tribunal judiciaire de Paris qui a condamné donc tout le groupe La Poste, 100% financé par le capital public, on vous rappelle, pour manquement à son devoir de vigilance concernant les conditions d'emploi de travailleurs et travailleuses sans papier au sein de ses propres filiales de livraison de colis, Chronopost et DPD France. Ce jugement met en réalité en lumière le recours systématique de l'entreprise au système de sous-traitance. C'est l'occasion de rappeler les mécanismes morbides de ce système. Mais d'abord, qu'est-ce que signifie le droit de vigilance pour la première fois invoqué dans une condamnation ? Eh bien, ce principe de devoir de vigilance est en fait assez nouveau, puisqu'il a été instauré en France par la loi du 27 mars 2017, suite à la catastrophe de Rana Plaza. Rappelez-vous, ces dizaines d'ateliers au Bangladesh qui s'étaient tous effondrés et où plus de 1100 travailleurs et travailleuses avaient perdu la vie en 2013. Tous ces ateliers étaient en fait des lieux de production sous-traités par des grandes marques françaises comme H&M, Benetton, Camailleux. Et pourtant, aucune de ces entreprises françaises n'avait été, à l'époque, condamnée. Mais ça avait fait un gros scandale et sous les pressions, ça avait abouti à cette fameuse loi de 2017 qui oblige donc les entreprises d'au moins 5000 salariés dont le siège social est en France de mettre en place un plan de vigilance pour prévenir les, je cite, les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elles contrôlent et donc des sociétés sous-traitantes. Bref, c'est donc en tant que société mère et entreprise donneuse d'ordre, comme on dit, que la Poste a été condamnée à compléter son plan de vigilance jugé insuffisant par le tribunal et à mieux cartographier les risques auxquels elle expose les travailleurs et travailleuses dans ses différentes filiales et entreprises sous-traitantes. Une décision qui permet de mettre fin à la stratégie de dédouanement systématique de toute responsabilité, mais une décision qui n'est pas suffisante pour mettre un coup d'arrêt définitif au système de précarisation généralisée de la Poste, puisque le tribunal a notamment rejeté une des demandes de Sud PTT qui se bat donc depuis 3 ans pour ce jugement, et une de ses demandes qui était de contraindre la Poste à rendre publique toute la liste de ses sous-traitants et fournisseurs, ainsi que de lui imposer la mise en œuvre des mesures de prévention de travail dissimulé. C'est une victoire qui n'est donc pas partielle, mais mesurée en demi-teinte. Car le modèle économique de la Poste repose donc sur une sous-traitance en cascade qui dilue les responsabilités et fonctionne grâce à du travail non déclaré et à des pratiques de prêt illégal de travailleurs et travailleuses entre entreprises. Cette mutation, en réalité, ne date pas d'hier. À partir de 2007, les réductions d'effectifs drastiques s'accompagnent d'une externalisation de l'activité via la création de filiales de plus en plus nombreuses qui changent radicalement l'organisation du travail dans la Poste. Ce qui est confirmé très rapidement en 2010, quand l'établissement public devient statutairement une société anonyme. À partir de là, la pression sur les sous-traitants ne va faire qu'augmenter. Dans un contexte de baisse continue des bénéfices, c'est le secteur donc de la livraison du colis qui devient le sésame économique avec la généralisation du e-commerce et qui permet de compenser les baisses de bénéfices de la Poste. Ni une ni deux, ce secteur doit être rentable à tout prix. Augmentation des cadences pour les travailleurs, allongement des distances des tournées, etc. Dans ce contexte, évidemment, employer des sous-traitants permet avant tout de faire baisser les coûts, en jouant donc sur la carte du dumping social. Les prestataires de services extérieurs se livrent alors une concurrence acharnée en baissant leurs propres prix pour conserver leur marché coûte que coûte, quitte à précariser les travailleurs, dégrader leurs conditions de travail et exploiter massivement des travailleurs sans papier qui coûtent moins cher, comme l'ont montré aussi ces conflits ces dernières années, notamment l'année dernière, en 2022, dans le centre de tri du Chronopost d'Alfortville dans le Val-de-Marne, où 137 travailleurs sans papier avaient occupé 3 piquets de grève pour dénoncer leur exploitation et réclamer leur régularisation. Recrutés par l'agence d'intérim de Richebourg, souvent sous alias, c'est-à-dire sous des faux noms, ces grévistes disait avoir travaillé au centre de tri de Chronopost depuis des mois et affirmait que l'agence d'intérim, comme la filiale La Poste, savait très bien qu'ils y travaillaient et qu'ils étaient sans papier, sans pourtant prendre leurs responsabilités. Bref, après cette première victoire, on espère que la prochaine sera d'arracher l'internalisation de tous les travailleurs et la régularisation de tous les sans-papiers.
Et avant de passer à notre rubrique locale, comme au Canu Info du lundi, on aime bien séparer les hommes des artistes avec la même hachette que la police. On vous propose une petite chanson dédicace pour Gérard Depardieu.
Je veux te faire bouffer tes couilles que tu ne cesses d'agiter. Gros cutter rouillé, je veux te brûler la bite et tes deux petites noix et détruire ton précieux coït dans un grand feu de joie. Éclater tes testicules comme du papier à bulle, cramer ta queue affamée comme une vieille banane flambée. Je veux te scier la queue et que tu pleures de douleur en la voyant trancher en deux à l'aide de mon coupe-beurre. Si tu me la mets encore sous le nez, je vais te castrer au second degré. Je vais te châtrer et te faire bénir, puis te demander de sourire.
Je veux taper dans ta bite avec ma batte en fer et mettre tes boules en orbite dans un autre système solaire. Je vais te peler la queue et tu me regarderas prendre les lambeaux de peau et les donner à mon chat. Je vais cracher sur ta dépouille et remuer la poussière, te prendre par la peau des couilles jusqu'à que saigne ton sphincter.
Tu me la mets encore sous le nez, je vais te castrer au second degré. Je vais te châtrer et te faire bénir, puis te demander de sourire. Si tu me la mets encore sous le nez, je vais te castrer au second degré. Je vais te châtrer et te faire bénir, puis te demander de sourire. Si tu me la mets encore sous le nez, je vais te castrer au second degré. Je vais te châtrer et te faire blêmir, puis te demander.
Et vous êtes toujours sur le Canu Info du lundi 18 décembre. Vous venez d'écouter Te castrer au second degré du groupe Émasculation. C'était une petite dédicace à ce grand Gérard Depardieu. Et on passe tout de suite à l'actualité.
Local.
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 Et on commence tout de suite avec un petit retour sur la manif du collectif Hébergement en danger.
Oui, puisque on vous l'avait dit les semaines précédentes, il y avait une mobilisation ce jeudi 14 dans le cadre de la bataille pour des ouvertures de places dans les centres d'hébergement d'urgence. C'était à l'initiative du collectif Hébergement en danger. Tout a commencé donc devant la métropole à la suite d'une délégation reçue par des vice-présidents de la métropole. On écoute un petit reportage sur cette délégation, la manifestation. On en parle rapidement après.
Donc on a été reçu à la métropole de Lyon par deux élus et par un chargé de mission sociale, enfin bref. Nous on leur apporte la revendication au niveau de la métropole, on leur a demandé d'héberger tous les ménas et toutes les ménas qui arrivaient sur le territoire, primo-arrivant, ça c'est la première chose qu'on leur a demandé. On leur a demandé aussi d'arrêter, de demander aux travailleurs, aux travailleurs sociaux des maisons de la métropole d'évaluer le caractère isolé des femmes à la rue et des couples, de les héberger en continuité jusqu'à ce que l'État les prenne en charge. On leur a demandé aussi d'héberger les mineurs isolés en recours qui se trouvent dans le square, qui est juste en face. Et on leur a demandé la réquisition de logements vides sur Lyon. Il faut savoir qu'à Lyon, il y a plus de 24 000 logements vides. Ce qui nous a été dit en gros, c'est que la métropole faisait déjà son maximum. Nous, on pense que la métropole, elle peut faire plus face à cette situation d'urgence et face à cette situation de crise humanitaire. On leur a demandé de créer 2000 places d'hébergement d'urgence en lien avec la préfecture. La métropole nous a répondu qu'ils s'engageaient à fournir le bâti et à maintenir la continuité d'hébergement si la préfecture créait et finançait ces places. On leur a demandé aussi d'héberger les mineurs non accompagnés, primo-arrivants. Ce à quoi ils ont dit on fait le maximum, on leur a dit c'est pas assez. Ils ont dit on fait le maximum, on leur a dit c'est pas assez. Là maintenant, ce qui se passe, c'est un rapport de force entre nous, travailleurs et travailleuses sociales, nous, collectifs, citoyens, citoyennes, nous, militants, militantes, des différents collectifs, des squats et des personnes à la rue, contre la préfecture. Donc là, ce que nous demande la métropole et ce que nous, on va faire, mais pas parce que nous l'a demandé, c'est aller mettre la pression sur la préfecture. Donc on va partir ensemble, parce qu'on est en grève, parce qu'on est mobilisé, parce qu'on ouvre des squats, parce qu'on fait partie du collectif qui héberge des personnes, on va aller jusqu'à la préfecture et on va obtenir 2000 places d'hébergement d'urgence d'ici à fin décembre.
Alors, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, je m'appelle Joachim et je fais partie du collectif Hébergement en danger.
Ok, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on est là aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, il y a 80 personnes qui sont en demande d'hébergement. Ça veut dire pas dire qu'il y a 80 personnes à la rue, mais en tout cas, dans les personnes en situation de grande précarité, il y en a 14 000. Les logements vacants sur Lyon, c'est un peu plus, c'est 17 000 places de logements vraiment complètement vacants qui seraient exploitables. Et après, il y a d'autres lieux publics qui sont probablement exploitables également. Ça, c'est le rôle de la métropole de les trouver, de les fournir. Sur les personnes qui ont retrouvé à la rue, en fait, ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes non seulement âgées, de 70 ans qu'on peut remettre à la rue, qui ont été remises à la rue récemment d'ailleurs, mais aussi des très jeunes enfants. Aujourd'hui, il y a des enfants de moins de 3 ans qui sont mis à la rue. Aujourd'hui, quand une famille appelle le 115, si son bébé a plus de 28 jours, et ça fait que quelques mois que c'est le cas, c'est pas une famille qui est censée, qui est considérée comme en priorité pour être hébergée. Donc aujourd'hui, en fait, les travailleurs du 115 sont obligés, les travailleurs sociaux, pardon, du 115 sont obligés de faire du tri parmi les personnes à loger pour la nuit, et en fait, c'est vraiment inhumain pour tout le monde, en fait.
Est-ce que pour l'instant, c'est une réussite aujourd'hui ?
En tout cas, on est content de la mobilisation, il y a plusieurs centaines de personnes, et c'est ce qu'on espérait, donc on est relativement satisfait.
Est-ce que tu sais si dans d'autres villes, il y a un petit peu ce genre de mobilisation ou est-ce que c'est que à Lyon la situation un peu dramatique de l'hébergement d'urgence ?
Non, la situation est la même à peu près partout. Aujourd'hui, il y a une mobilisation à Saint-Etienne notamment qui se fait. Voilà. Mais c'est sûr que il y a probablement, toutes les villes sont touchées.
Ok, et dernier point, quelles sont les perspectives immédiates ? Est-ce que vous allez appeler à d'autres journées de mobilisation d'ici à fin décembre ?
Ouais. Alors aujourd'hui déjà on appelle à ce qu'il y ait 2000 places ouvertes d'ici Noël. C'est évidemment pas suffisant mais c'est un premier pas. Et évidemment à terme on demande que tout le monde obtienne un logement, surtout que l'hiver arrive.
Même si tu ne veux pas, nous on est là pour défendre l'hébergement des adultes et des enfants. Même si tu ne veux pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si tu ne veux pas, nous on est là.
Donc, vous venez d'écouter un petit reportage sur la manifestation qui était à l'appel du collectif Hébergement en danger de ce jeudi. Alors, ce qui s'est passé à la fin de cette manifestation, il y avait quand même environ 700 personnes. C'était donc une délégation avec le sous-préfet. On va en reparler tout à l'heure pendant l'interview de Monsieur Péroudon. Alors, voilà ce qu'a répondu Monsieur Péroudon aux membres du collectif Hébergement en danger. C'est qu'il n'y aurait pas de réquisition de logement et pas de place d'hébergement en plus tant qu'il y aurait des sans-papiers dans les centres d'hébergement d'urgence et dans les demandes pour des places d'hébergement d'urgence. Sachant que ce que m'ont dit ensuite les camarades de travailleurs sociaux et travailleuses sociales, c'est que un tiers des demandes sur les 14 000 étaient faites par des sans-papiers. C'est donc qu'il y a aussi deux tiers qui sont faites par des personnes qui ont la nationalité française. Il a quand même précisé, on va quand même pas envoyer l'armée dans les centres d'hébergement d'urgence. Et surtout, ce qu'il a dit, c'est que la fluidité de l'hébergement passera par des remises à la rue, d'une part, et ensuite par l'accès à des logements sociaux. Alors, il est bien gentil, parce que les logements sociaux, ils ne sont pas accessibles sans papier, d'une part, et surtout, il faut entre 3 et 5 ans minimum pour obtenir un logement social à Lyon, en moyenne, je précise, dans la métropole, quand on rentre dans les critères d'admission. Donc, bref, au-delà du positionnement particulièrement raciste de la préfecture, mais ça, c'est pas une nouveauté, c'est clairement du foutage de gueule. Alors, le collectif hébergement en danger appelle une prochaine assemblée générale ce jeudi à 18h à la Bourse du Travail et une mobilisation en janvier. Quant aux professionnels de l'hébergement d'urgence, la réponse est très claire, il n'y aura pas de remise à la rue.
Suite à l'interview, du coup.
Et donc, on passe tout de suite à notre interview, puisque aujourd'hui, on a deux invités. On a d'une part William, qui est parent et occupant de l'école Audrey Hepburn dans le 9e. Et on a Antoine, qui est parent d'élèves et membre du comité de soutien aux familles des sans-abri de l'école Michel Servet dans le 1er arrondissement. Donc, déjà, merci à tous les deux d'être là ce soir. Et bonsoir. On va donc parler des occupations d'école des familles, puisque c'est la dernière et l'ultime solution, un peu comme tous les ans, mais cette année, c'est encore un peu plus tendu que d'autres années. Alors déjà, on va commencer par toi, Antoine. Est-ce que tu peux nous présenter, même si tu n'en fais pas immédiatement partie, un petit peu ce que c'est que le collectif Jamais Sans Toi, et puis surtout la situation générale à Lyon dans les écoles?
Bonsoir à tous. Donc moi, je suis au comité de soutien de l'école Michel Servet, qui est dans le premier. Et donc Jamais Sans Toi, c'est un collectif qui regroupe toutes les requêtes donc des différents comités de soutien. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a 13 écoles occupées, donc 13 mouvements rassemblant parents et enseignants pour permettre une occupation d'école. Donc soit des occupations en autonomie où les familles sont dans l'école, pas forcément accompagnées, mais où ils peuvent dormir dans un gymnase et avoir accès à des sanitaires pour la nuit uniquement. Donc ça, c'est toujours en dehors des temps scolaires, donc pour que ça n'influe pas sur le bon déroulement de l'école. Et d'autre part, voilà, donc Jamais Sans Toi, ça agrège tout ça. C'est aussi eux qui font les réunions comme celle qui a eu lieu aujourd'hui avec Grégory Doucet entre midi et deux, afin de se décider ce qui va se passer durant les vacances scolaires.
Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a dit Doucet?
Et alors Doucet, il est choqué par cette situation et il veut pas non plus prendre la place de l'État parce que la question de l'hébergement, c'est une responsabilité de l'État. Donc il vient auprès des familles qu'ont été listées précédemment délivrer des places d'hôtel dans un lieu où il y a aussi un moyen de cuisiner. Donc pour deux semaines, c'est une solution. On peut pas dénigrer ça, mais c'est une solution courte, c'est une solution qui nous amène à refaire pression encore sur Julien Péroudon comme les manifestants pour que l'État prenne ses responsabilités.
Alors, on va un petit peu parler de cas particuliers, puisque là, du coup, William, bonsoir, merci d'être là.
Bonsoir.
Toi, tu es parent et occupant d'une école, c'est l'école Audrey Hepburn dans le 9e. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à te retrouver dans cette situation et comment ça se passe à l'école?
Ben, nous, on est arrivé du Brésil, moi et ma femme, et on a été victime d'une arnaque. Donc, du coup, on s'est retrouvé à la rue. La première solution qu'on a fait, on a continué à loger dans un hôtel. Mais les finances ont commencé à devenir courtes. On a réussi à trouver un travail tous les deux et l'école a su qu'on était à la rue. Donc ils nous ont hébergés, comme notre fils est de l'école. Et moi, je trouve ça lamentable parce que c'est difficile quand t'as un enfant et tu ressens le froid sur le visage. Et t'imagines un gamin de 7 ans ou n'importe quel enfant à la rue, dormir à la rue, c'est difficile. je sais pas comment vous dire, c'est, ça prend aux tripes, ça fait mal. Et j'entends énormément de services sociaux. J'ai été voir les services sociaux. Hein. J'étais voir la maison de la métropole. J'ai téléphoné au 115. Et chacun d'eux se renvoie la balle. L'autre dit non, c'est pas moi. Non, c'est l'assistance sociale. Le 115 se disent, ah, vous êtes en couple avec un enfant, on n'a pas de place. Mais ils te disent qu'ils ont des places pour des couples sans enfants, des personnes sans enfants, mais avec enfants, il n'y a pas de place. Et j'arrive pas à le comprendre. Des fois, moi, j'ai envie de dire aux responsables, aux politiques, venez dormir dehors avec vos enfants. Donnez-vous la peine de venir dormir avec nous et voir ce que c'est, comment c'est dur, cette souffrance. Parce que, bon, les adultes, c'est différent, mais des enfants, ils n'ont pas demandé à vivre cette situation.
Et vous êtes combien à dormir là en ce moment à l'école? Combien de familles? Combien d'enfants?
Actuellement, on est 5 familles. On est 5 familles et 2, 4, il doit y avoir 6 enfants.
Et les perspectives là pour cette semaine et puis après pour les vacances, vous les connaissez?
Ben moi, je ne sais pas, je suis dans le flou total. Voilà, je sais pas vendredi où je vais dormir, je sais pas ce qu'elle a été décédée avec la préfecture, avec l'assistance sociale. Moi, j'ai envoyé plusieurs mails à mon assistante sociale, Madame Abouir, qui ne m'a jamais répondu, qui ne prend pas la peine de me suivre, qui m'oriente pas, qui m'aide pas. Elle ne m'aide pas. Elle a fermé ses portes.
Ok, bon, alors on va passer un peu à la situation de l'école dans le premier arrondissement, Michel Servet. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où vous en êtes, cette occupation, depuis combien de temps ça dure, et puis quelles sont les perspectives immédiates pour l'instant?
Alors nous, les perspectives immédiates, c'est que là, il y a 8 enfants qui dorment à l'école Michel Servet. En ce moment, ça fonctionne grâce à, donc comme je disais, des passerelles enseignants et parents d'élèves. Ces personnes qui occupent, c'est pas des personnes militantes, c'est pas des personnes qui sont dans un engagement politique particulier. C'est juste des personnes qui sont choquées par cette situation. Ils sont choqués que des enfants peuvent dormir dehors et sous des tentes et donc c'est pas supportable pour elles. On est vraiment dans un accueil inconditionnel de personnes qui sont sensibles simplement à cette situation. Nous on entend le propos de la ville, mais quand on sait qu'il y a des solutions qui pourraient être trouvées, on sait qu'il y a des bâtiments qui pourraient être réquisitionnés. Mais c'est vrai que c'est avant tout l'État de prendre en charge ça. C'est lui qui a cette responsabilité. Sur les 8 enfants, s'il donne un exemple, une famille arménienne qui a été, sa demande de droit d'asile a été refusée le 7 novembre. Le 8 novembre, ils ont été mis à la rue à Miribel en disant, vous partez maintenant. C'est, voilà, une famille avec un enfant de 8 ans, en plein hiver. C'est hyper choquant que ça puisse arriver en France. Si je donne quelques chiffres, donc c'est qu'il y a 95 enfants qui dorment dans des écoles en ce moment, rien que sur la ville de Lyon. C'est quand même beaucoup, hein, quand on imagine les uns à côté des autres. 95 enfants dans 13 écoles occupées. Dans toute la métropole, c'est 331 enfants qui sont scolarisés, qui sont sans domicile fixe. Et surtout, bon, ces chiffres, ils sont déjà hyper impressionnants, mais c'est aussi beaucoup plus que l'année dernière, 30%, ou plus de 30% de plus. Et bien plus du double que dans l'époque pré-Covid. Donc, on est dans une situation qui se détériore et qui devient, voilà, l'État attend des villes et des collectifs que de personnes qui prennent leur en charge.
C'est-à-dire que ça fait reposer sur les écoles et puis sur les parents d'élèves et les instituteurs, en tout cas les personnels des écoles, la responsabilité d'un hébergement qu'on n'est pas un, qui est forcément hyper dur. Quels sont du coup les moyens d'aider? Alors toi, tu nous disais qu'il y avait un comité de soutien. Est-ce que à l'école Audrey Hepburn dans le 9e, il y a un comité de soutien? Il y a des gens qui viennent filer des coups de main? Est-ce qu'il y a un moyen de venir essayer de filer un coup de main?
Oui, il y a des gens, tout à fait, qui viennent nous apporter à manger, qui ouvrent la porte le soir, parce qu'on doit sortir le matin quand même pour pas déranger le bon fonctionnement de l'école. Et tout le monde respecte ces conditions-là. On est très aidés, hein. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir des gens qui sont à nos côtés. Et c'est malheureux de voir qu'ils assument la responsabilité de l'État, parce que ça leur fait mal aux tripes de voir qu'il y a des parents avec des enfants à la rue. Mais grâce à Dieu qu'ils sont là. On peut dire cette parole, grâce à Dieu, parce que si on devait espérer après l'État, je pense qu'il serait déjà arrivé des catastrophes. Avec oui. Ce froid-là, là, oui. Je pense.
Et alors, en termes de perspective politique, parce que là, bon, on est un peu dans l'humanitaire, en termes de politique, on a les pouvoirs publics, il y a la mairie et il y a la préfecture. T'en parlais un petit peu, là, immédiatement, là, cette semaine, c'est la dernière semaine avant les vacances scolaires. Est-ce qu'il y a une petite lueur d'espoir ou on en est un peu loin ?
Il y a besoin d'une grosse pression médiatique. Je pense que plus il y a personnes qui ont du pouvoir, qui se mobilisent, plus il y a de chances pour qu'il y ait des choses qui se débloquent. Après, nous on a tous espoir qu'il y ait des solutions qui soient trouvées. Ça a été déjà fait par le passé, mais c'est vrai que ces solutions sont de plus en plus dures. Là, nous, on a des familles qui sont hébergées à l'école, dont on va prendre en charge les vacances scolaires parce qu'il n'y a pas eu, les listes n'ont pas été mises à jour à temps. On va faire une cagnotte entre parents d'élèves pour pouvoir héberger ces gens durant les vacances scolaires et l'après vacances scolaires c'est bientôt, ça va arriver très vite. On sera toujours en janvier il faudra qu'il y ait des solutions qui soient trouvées.
Bien, et est-ce qu'il y a des rendez-vous que vous voulez donner, vous avez des rendez-vous à donner un petit peu, genre le matin, en journée là, ou le soir dans les écoles que vous occupez ou dont vous participez à l'occupation, l'un comme l'autre?
Nous on fait des goûters solidaires les premiers vendredis du mois, donc ça permet de vendre des gâteaux et de rapporter de l'argent qui permettent de payer des nuits d'hôtel pour les week-ends. On fait différentes actions et là on va lancer une cagnotte pour ces familles, pour les familles de l'école Michel Servet, donc qui n'ont pas été sur les listes et qui n'iront pas à l'école au CISL là dans le 8e, comme les 94 qui ont été listés. Donc on va avoir besoin de soutien.
Ok, et ton côté William?
Ben, vous êtes bienvenus.
Ok, on est bienvenus, très bien.
On manquera pas de partager les prochains rendez-vous et évidemment la cagnotte, dès qu'elle sera en ligne, on la mettra sur le blog du Canu Info, évidemment.
Évidemment, bon bah merci à vous deux, bon courage, vraiment
merci
bon courage. Et on va continuer à en parler après les vacances scolaires. Nous aussi on va faire une petite pause, mais on va continuer à parler parce que malheureusement c'est a priori pas tout à fait prêt de s'arrêter, comme on le disait.
Et merci à vous. Alors on fait une petite pause, mais il n'y a pas que nous, hein, puisque l'agenda est bien vide cette semaine. Il y a un seul rendez-vous qu'on va vous communiquer, c'est l'atelier d'écriture aux prisonniers qui aura lieu le 20 décembre, pardon, j'allais dire demain, mais non, c'est mercredi à 20h. À la Griffe pour un atelier d'écriture aux prisonniers. La Griffe, c'est rue Sébastien Griffe dans le 7e arrondissement. On rappelle également un rendez-vous important, c'est ce vendredi 22 décembre, le verdict du procès des inculpés du 8 décembre dont on a parlé en long, en large, en travers. On vous invite à retourner écouter les nombreuses émissions qu'on a consacrées à ce sujet, mais il y a des camarades qui sont dans une situation particulièrement compliquée, qui risquent de prendre des années de prison ferme pour un dossier monté de toute pièce. Donc on vous invite à rester à l'écoute des prochaines infos sur ce sujet, aller les soutenir si besoin. Il y a un rendez-vous à Paris éventuellement devant le TGI ce vendredi 22 décembre.
Et puis samedi, on le redit, hein, il y aura un rendez-vous à nouveau pour la Palestine dans l'après-midi probablement. Place Bellecour ou Place des Terreaux, vérifiez tout ça sur Rébellion.
Et quant à nous, on vous dit à l'année prochaine pour le premier Canu Info qui sera...
Un lundi.
Un lundi.
Nous sommes le Canu Info du lundi.
Et on vous laisse d'ici là avec les magnifiques bandes continues.